Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Bienvenue au Balado Urbania.
Salut, je m'appelle Florence Larochelle, je suis chef de marque chez 495 et vous écoutez le Balado d'Urbania. Puis moi, comme près de la moitié des jeunes de ma génération, selon une étude de Microsoft, j'ai un side hustle.
Je m'appelle Julien Lamoureux, je suis journaliste chez Urbania. Récemment, j'ai essayé un de ces side hustles que j'ai trouvé sur Instagram. Vous en avez peut-être déjà vu quelques-uns d'ailleurs. Et ça promettait un revenu facile, passif et assez impressionnant.
Mm-hmm. Puis justement, pour revenir sur ton expérience aujourd'hui, puis pour parler aussi du phénomène puis du contexte autour des side hustles, on a avec nous Olivier Germain.
Oui, ben bonjour à tous. Olivier, moi je suis professeur d'entrepreneuriat à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, où je suis titulaire de la chaire en entrepreneuriat, altérité et société. Donc heureux d'être avec vous. Là.
Merci d'être là. Ça a été difficile de trouver quelqu'un qui était un peu connaisseur du sujet d'aujourd'hui, fait qu'on est très content de vous avoir avec nous.
Vraiment, vraiment. Julien.
Oui, Florence.
Revenons un petit peu sur ton expérience, mm-hmm. toi, du side hustle. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris là-dedans? Puis peux-tu en fait commencer par nous rappeler comment ça s'est passé puis qu'est-ce que t'as fait exactement?
Oui, je vais y aller dans les grands traits parce qu'on a fait une vidéo et un reportage qui sont sur 495 pour que les gens aient tous les détails. Mais en gros, c'est un compte Instagram américain sur lequel il y a des dizaines de trucs pour faire de l'argent facilement et surtout passivement. Donc celui que j'ai essayé, c'était de mettre des morceaux de linge sur Etsy qu'on crée avec des designs préétablis. On n'a pas besoin d'imprimer d'avance les vêtements. Il y a comme un service qui s'appelle Printify qui réagit aux commandes sur Etsy et qui fait l'impression au fur et à mesure. Ça semblait très intéressant. Le Nigel, qui est l'espèce d'influenceur side hustle qui le proposait, parlait de revenus dans les dizaines, centaines de milliers de dollars.
Et après, il expliquait pas trop comment faire, par contre, là, finalement.
Il allait assez vite. Puis on comprenait pas trop s'il avait vraiment fait ou s'il montrait juste des onglets sur son ordinateur. La vidéo durait genre une minute. Mais j'ai quand même réussi à m'y retrouver. Et après, ben là, encore une fois, ça fait quasiment un mois maintenant qu'on a mis ça en ligne. Et ben j'ai fait 0$ avec le side hustle qui semblait si simple et qui finalement était peut-être un peu trop beau pour être vrai.
Mm-hmm. Fait qu'on est loin du, c'était quoi, 119 000 $ premier?
Ouais, ben l'exemple qu'il donnait avait d'ailleurs pas de sens parce qu'il calculait pas ses dépenses. Là, il faisait juste multiplier le nombre de ventes d'un produit pris au hasard sur Etsy par le prix. Mais ce que j'ai compris aussi en fouillant un peu plus puis en lisant là-dessus, c'est que lui, ces side hustles-là, c'est pas nécessairement sa manière de faire du revenu. C'est en utilisant l'espèce de trend autour des side hustles pour attirer des clics sur sa page. Puis il redirigeait les gens finalement vers des cours en ligne avec son mentor qui semblait être, c'est ça, un truc de marketing de contenu finalement. Donc, je pense que c'est ce qu'il utilisait, c'était l'attrait qu'ont les jeunes qui sont sur Instagram, sur TikTok. Beaucoup de jeunes utilisent ces plateformes-là pour leurs conseils financiers. Donc, les gens cherchent un peu des side hustles puis en proposent un qui finalement est un peu sans queue ni tête parce que de juste lancer un T-shirt parmi les millions qu'il y a sur Etsy sans faire de promo, c'est un peu une illusoire de penser qu'on va faire de l'argent. Mais moi, j'ai suivi à la lettre ce qu'il disait, puis c'était ça, finalement. Donc, je pense que c'est vraiment de renvoyer les gens vers un autre produit par la suite, un cours en ligne qui va coûter 1000, 2000, 3000 pour promouvoir d'autres produits par la suite, finalement.
C'est ça. C'est essentiellement une stratégie très clickbait qui marche bien auprès de la Gen Z, ou du moins qu'on voit beaucoup dans nos feeds Instagram
Exactement.
Et TikTok.
Oui, voilà. Puis moi, je suis un petit peu plus vieux que toi, Flo, mm-hmm. que je voyais moins, justement, dans mes feeds avant que tu m'en parles. Mm-hmm. Je pense qu'il y a vraiment un effet de génération là, avec ces side hustles-là dont on va parler aujourd'hui.
Mon algorithme adore ça, on dirait. J'en vois plein. Puis toi, Olivier, est-ce que ça te surprend de voir apparaître des méthodes un peu bidons comme ça pour qui visent vraiment la Gen Z puis les jeunes milléniaux?
Ouais, alors je vais remonter un petit peu en arrière, genre préhistoire, non? non, mais pour montrer quand même qu'il y a des tendances qui se créent avec le temps, là. On était quand même habitué à voir ce qu'on appelait des entrepreneurs hybrides. En gros, c'est des gens qui ont un job et qui veulent à côté avoir un projet entrepreneurial. Soit parce qu'ils veulent entreprendre de manière moins risquée, ça fait qu'ils vont essayer d'entreprendre, ils vont garder leur job à côté, ils vont maîtriser leurs risques et puis un jour, ils vont entreprendre. Ou alors, c'est un lifestyle. Donc, on connaissait déjà quand même ça, les entrepreneurs hybrides. Là, ce qu'on voit apparaître, c'est sûr qu'au départ, on peut voir ça comme de l'opportunisme, là, de se dire c'est l'argent facile. Puis allons-y, tendance Instagram, les influenceurs, les stars de télé-réalité, tout ça va ensemble. Hein. Je pense que derrière, on peut aussi voir des tendances à la réinvention du rapport au travail. Mmh. Et pour moi, il y a différentes choses là-dedans. Il y a le fait que avoir un job, c'est être assigné à une identité. Avoir des jobs multiples, c'est finalement fuir un peu les identités qu'on t'assigne. Et je pense que la génération, là, elle se décrit aussi par le fait qu'elle refuse les assignations identitaires, pas simplement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée. Mm-hmm. Ça va toucher le genre, ça va toucher plein d'affaires. Et donc, en faisant ça, finalement, t'échappes au fait à l'idée qu'il faut que tu t'engages de manière irréversible dans une activité. Tu te dis, bah, finalement, je suis un peu un touche-à-tout. Donc pour moi, ça, c'est une tendance qui n'est pas inintéressante. Puis après, ça redéfinit aussi l'engagement dans le travail. C'est-à-dire que quand on te vend l'entrepreneuriat, on te vend quand même quelque chose qui repose sur un effort extrêmement important, dans lequel parfois tu vas te brûler. Peut-être que tu as vu tes parents te brûler là-dedans. Et donc tu te dis, mais finalement, je vais peut-être avoir un rapport maîtrisé à mon engagement dans le travail. Et puis tout le monde ne cherche pas finalement un sens puissant dans le travail. Ça nous surprend, là. Mm-hmm. On a toujours été habitués, depuis des millénaires, à avoir un travail dans lequel on s'engage pour créer du sens dans sa vie. Et là, tu le crées peut-être ailleurs. Et peut-être que même, à un moment, le fait de ne pas trouver de sens dans le travail, ben, ça te rassure parce que tu peux vivre de manière plus apaisée. Ouais. Et donc, il faut peut-être y voir des tendances un peu plus fortes, mm-hmm. que simplement gagner de l'argent avec peu d'efforts.
Ouais, donc l'expérimentation que j'ai faite, qui est plus anecdotique, nous montre que quelqu'un a un peu profité de ces tendances-là qui sont plus lourdes pour s'attirer des clics puis devenir viral, mais finalement, ça en dit plus long sur la génération Z et les jeunes millénariaux que ce que le simple compte Instagram de cet homme-là nous apprend finalement.
Alors après, on peut pas généraliser parce que je pense que justement, cette génération, elle se définit par la pluralité des identités, ouais. des manières de faire. C'est, en sociologie, ils appellent ça l'hypermodernité, là. Chacun cherche à être différent, mais finalement, c'est une banalité que chacun cherche à être différent. Tout le monde veut être son petit malin, tout le monde veut avoir son tatou, tout le monde veut être... Mais finalement, ça décrit une pluralité de comportements. Puis il faut qu'on s'habitue à être dans des sociétés où, ben voilà, t'as des polyamoureux, t'as des polyemplois, t'as des polys plein de choses, t'as des polys divertissements, là. Tout le monde se réalise différemment, puis de manière parfois temporaire, là. Donc on vit son genre, sa profession, plein d'affaires de manière différente et parfois temporaire. Et c'est aussi ça qui nous surprend, c'est qu'on passe de sociétés du long terme à des sociétés du temporaire. Et ça, on a du mal avec ça, là.
Ouais. Puis c'est, je pense, Julien, justement, tu avais trouvé une stat là-dessus que c'est genre la moitié des jeunes qui ont plus d'un employeur aujourd'hui.
Oui, voilà, c'est ça. C'est une autre étude là, qui est basée aux États-Unis. Mais comparativement aux baby boomers puis aux milléniaux, aux millénariaux, qui sont à un tiers de ceux et celles-là ont deux employeurs ou plus, ben chez les Gen Z, c'est la moitié. Donc, de 33 à 50 % à peu près, c'est quand même presque 20 % d'augmentation. C'est assez marquant, là, je pense.
On a envie d'être multiples, d'être tout à la fois, on dirait.
Ouais. Mais tu sais, quand tu regardes un moment, pourquoi on doit être ramené à une identité quand on est une personne? C'est dur d'être ramené à une identité. Mm-hmm. Moi, je fais souvent l'exercice en cours. Je demande aux personnes de se définir au début du cours par un mot. Mais fais ça, c'est très dur de se définir par un mot dans la vie. T'as envie de te définir par plein de choses, parce que du jour au lendemain, t'es pas la même chose tout le temps. Là. Après, je pense qu'il faut aussi qu'on fasse attention de pas masquer derrière les phénomènes de précarisation. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans les gens qui travaillent, qui ont des emplois multiples, il y a aussi la précarité. Puis je pense que comme journaliste ou comme professeur artistique, on sait ce que ça veut dire à un moment de ne pas pouvoir vivre de son emploi. Ouais, mais c'est ne pas vivre de son emploi, être obligé d'être serveur à côté. Mm-hmm. Les artistes, les journalistes, il y a plein de métiers comme ça qui ont été des... Enfin, le pigiste est une figure qu'on voit maintenant apparaître partout, mais qui est finalement présente dans beaucoup d'industries précaires. Là. Mm-hmm. Je ne veux pas vous faire pleurer. Là.
mais on pourrait avoir l'impression qu'on dépeint un portrait un petit peu plate là, des jeunes. Est-ce qu'on essaie de faire plein de choses pas trop bien? Ou est-ce qu'on est si désengagé que ça? Ou est-ce que c'est une quête de quelque chose de plus grand? On dirait que je trouve ça plate de me dire « Ah, on essaie de faire plein d'affaires à moitié, puis finalement, on veut juste être toutes en même temps. »
Ouais, bah, et puis en plus, même ce qu'on se dit là, on peut pas le dire de manière définitive. C'est ça qui est particulier, mm-hmm. cette génération-là. Là. Mais moi, je dirais que c'est, tu peux le voir aussi comme des occasions de faire des expériences du sens que tu veux créer. Mm-hmm. C'est-à-dire, bah, plutôt que de se dire, je vais choisir une formation pour faire un emploi, dans ma vie, je peux faire des expériences et de me dire, finalement, j'aime pas. Tu sais, c'est un peu comme les shows de Bruxelles, là. T'es obligé de les goûter avant de dire que t'aimes pas, quoi.
Mm-hmm. Bah oui, puis ça, ouais. je peux...
Moi, je sais ce que c'est, là, de pas aimer les shows de Bruxelles.
Non, mais c'est vrai. Puis moi, c'est un petit peu pour ça que j'ai lancé mon mm-hmm. side hustle l'année passée. Je travaillais dans le monde corpo, des consultants, puis j'avais envie de... C'est juste mettre mon gros orteil dans le monde du journalisme, question de voir si l'eau était bonne. Puis je me suis dit, ben, à place de sauter dans le vide carrément, ben, je vais me bâtir un petit portfolio avec un projet sur le side. Je vais mouiller un petit peu, puis le tester, voir ce que ça donne. Puis,
peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit,
oui,
ton side hustle un petit peu?
Voilà, fait que dans le fond, j'ai lancé un magazine imprimé l'année dernière que je run sur le side avec des amis. On fait tout ça à temps partiel, ben, des amis, des collègues, qu'on fait ça à temps partiel. On est tous des pigistes, puis c'est une publication qui paraît aux 6 mois sur la création. Fait que c'est un projet vraiment trippant que je faisais vraiment par passion. Au départ, que je fais toujours mm-hmm. par passion, mais qui est devenue carrément une petite entreprise maintenant. Fait que je vis un peu le tranchant de tout ça. Tu sais, je commence à réaliser que c'était un plus gros engagement que qu'est-ce que mm-hmm. je pensais, puis que vu que j'ai pas eu envie que ça reste juste un petit projet sur le site, puis j'avais envie que ce soit sérieux, puis j'avais envie de m'investir, ben là, c'est... On distribue dans les librairies, on fait des mm-hmm. ventes, ça demande beaucoup d'efforts logistiques. Fait que, tu sais, c'est comme... qu'un projet, finalement.
Mais je trouve que c'est un cas de figure intéressant parce que, en fait, tu sais, des gens qui, mettons, tricotent pour le plaisir puis qui commencent à le faire, à avoir un compte Instagram pour vendre leur création. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ces gens-là perdent plaisir à leur hobby ouais. en le professionnalisant? Toi, est-ce que ton intérêt pour la création puis pour ce dont parle le magazine est comme teinté par le fait que tu as des responsabilités financières ou de deadlines qui sont reliées à ça, puis que c'est plus seulement un hobby? Dirais-tu que ça a changé un peu, ça a flouté la ligne entre le hobby puis le side hustle?
Ben, je pense que oui. Je sais pas d'où est-ce que ça vient. Tu sais, c'est ça, je pense que je suis pas un cas isolé. Beaucoup de mes amis se sont dit qu'ils avaient comme envie de commercialiser leur passion, puis que là, fallait que... Quand tu fais quelque chose de bien, c'est pas juste... Ça peut pas juste être ça, un passe-temps auquel tu prends plaisir. Il faut que ça devienne quelque chose de lucratif, quelque chose qui te permet de te prouver, de te créer une identité. Il faut que tu le mettes sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, ouais, j'ai senti cette espèce de pression-là qui a embarqué par-dessus tout le reste. Mais je continue à y prendre plaisir, définitivement. Mm-hmm. Mais c'est un plaisir travaillant, mettons.
Moi, je trouve ça fascinant parce que vous réinventez une manière de faire de l'entrepreneuriat, d'une certaine manière, là. Vous dites à un moment, il faut que j'explore avant d'être sûr d'y aller vraiment, quoi. C'est-à-dire que faut que je mette un peu le doigt de pied dans l'eau avant de savoir si j'ai envie d'y aller. Et puis, deuxième truc, c'est que je trouve qu'à un moment, c'est vachement difficile de faire la distinction entre une pratique amatrice et une pratique professionnelle. Mmh. C'est dur dans la vie. Tu te dis, ben, en même temps, c'est pas parce que j'aime la cuisine que je veux lancer un resto. Donc, j'ai besoin d'expérimenter, de voir un peu pourquoi ma passion, est-ce que je vais la perdre en le faisant de manière professionnelle. Donc, vous inventez des formes d'expérimentation qui permettent finalement de maîtriser un peu le risque, ouais. puis d'être un peu de manière progressive dans le bain, là, plutôt que de sauter, de faire un vieux plongeon et un gros plat, là.
Ben oui, puis ça fait ça rend la frontière entre le travail ouais. et le plaisir et les passions très, très floues. Est-ce que c'est à cause est-ce qu'on a des modèles comme ça? C'est les réseaux sociaux? C'est...
Ouais, mais en même temps, tu vois, là, on réagit un peu en live, là. Mais en même temps, l'entrepreneuriat a toujours été ça, a toujours été au départ une transformation de la passion personnelle en quelque chose qu'on veut développer de manière lucrative. Les femmes, au Québec, parce qu'il y avait des mécanismes d'interdiction d'entrer sur le marché, ont toujours entrepris. Tu sais, quand on se moque des femmes qui font de l'entrepreneuriat de confiture et autres, mais c'est parce qu'à un moment, tu as vécu ta passion personnelle à transformer l'entrepreneuriat si tu voulais accéder à l'émancipation. Donc, c'est quand même, il y a des tendances anthropologiques dans les sociétés, là. Mm-hmm. Par contre, après, là, ce que tu dis, c'est plus une question d'un moment de comment je respecte la frontière entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et là, il y a un risque de charge mentale qui n'est pas négligeable quand même, hein, de se dire à un moment, si j'investis mon hobby comme étant la chose avec laquelle je gagne ma vie, bah, ça veut dire aussi qu'à un moment, la frontière, comment tu l'as fait il faut garder des frontières. Mm-hmm. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où il faut ramener le travail à sa place aussi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de t'épanouir, mais c'est dangereux de tout mettre dedans. Mmh. Et la génération, là, elle est aussi là-dedans de se dire, je ne vais pas tout y mettre, là, parce qu'on a vu plein de cas de figure où les gens brûlent, là. Ouais.
Puis je sais pas si c'est un effet. On s'est dit tantôt qu'on a à peu près 50 différences. Donc je sais pas si c'est un effet de génération. Faut pas tout le temps généraliser à génération Z, milléniaux, parce qu'au final, on est un peu de la même époque, ou si c'est juste des différences de personnalité. Mais on dirait que moi, j'ai plus de réticence à embarquer dans cette idée-là de side hustle ou mes passions de l'extérieur. On dirait que j'ai une frontière un petit peu plus imperméable entre les deux. C'est peut-être, comme je dis, juste une question de personnalité et pas une question d'âge. Mais c'est ça, je me demandais quel serait mon side hustle, puis je pense que je le sais pas. Toi, Olivier, si tu avais un side hustle, ce serait quoi?
En même temps, je suis prof. Peut-être que j'ai un privilège de pouvoir vivre d'un truc qui est agréable. Mm-hmm. Tu rencontres des gens différents dans les salles de classe tous les ans. Tu fais de la recherche, donc intellectuellement, tu es toujours vivant. Donc j'ai l'impression que mon job me permet, en plus, on vit pas mal de ça quand même, mm-hmm, en termes de salaire. Donc, j'aurais pas le goût de transformer, ouais, quelque chose d'à côté en side hustle. Mais c'est peut-être un privilège, du coup. Mm-hmm.
Et c'est ça. Est-ce que les, ouais, gens qui ont des side hustle sont insatisfaits dans leur emploi? Ouais, c'est pour ça qu'ils se créent un side hustle.
Bah ouais. Puis on revient peut-être aussi à la question de la précarité, mm-hmm, là. C'est qu'à un moment, les salaires moyens au Québec, ils sont pas bien hauts, là. Donc, à un moment, si t'as envie, mm-hmm, de vivre juste un peu confortablement, ou même correctement, peut-être que c'est aussi une stratégie de gestion de la précarité. Puis, mm-hmm, là, c'est le côté un peu dark side, là, peut-être.
Ouais, puis on parlait beaucoup d'inflation, mais en 2022, l'inflation a varié entre 5 et 8 % selon les mois. Puis je pense pas que les salaires que les gens avaient dans leur travail à temps plein a suivi, même si l'inflation a un peu ralenti cette année, autour de comme 3-4 % Il y avait peut-être certaines qui hésitaient, qui se sont dit c'est peut-être le temps d'y aller, tu sais, puis de trouver un petit revenu d'appoint pour faire un voyage ou pour juste payer le loyer.
Tu sais. Ah ouais, ouais. Ça éviter un easy financière, là, ouais, un taux de 30%. Mm-hmm. C'est ça la vie des gens aussi là, en ce, mm-hmm, moment-là.
Puis ça a été plus facile que jamais de le faire aussi parce qu'on était de la maison, le télétravail n'est pas tout à fait terminé. Pour beaucoup, c'est resté après la pandémie. Fait que les frontières s'effacent encore plus entre ton emploi principal, tes hobbies, tes passions, puis ta vie personnelle, quand le bureau, c'est la maison aussi. Là.
Exact. Ouais. Et puis, ça demande finalement pas beaucoup de ressources à l'entrée. C'est-à-dire que t'es pas obligé de te pogner le fait d'aller faire un plan d'affaires, d'aller pitcher devant des vieux monsieur.
Ouais, c'est ça.
D'aller demander 20 000 $ mais ils vont te dire, ben non, faut que tu fasses ça autrement, ça, faut que tu le fasses comme ça, et ça, comme ça, et là, tes prévisions de vente. Là, t'as quand même une forme entrepreneuriale accessible sur la base de ressources qui sont un peu limitées.
C'est vrai.
Donc, il y a une démocratisation de l'entrepreneuriat aussi par ça. Hein.
C'est vrai.
Imagine, si, je crois, il y a 100 personnes qui se lancent là-dedans, il y en a 5 qui font après quelque chose de durable. Ils y ont accédé, tu n'as pas besoin d'aller chercher l'argent de tes parents, tu n'as pas besoin d'aller faire un crowdfunding, mm-hmm, et tu n'as pas besoin d'aller voir les vieux monsieur.
Mm-hmm. C'est exactement comme, ouais, ça que Nigel l'a présenté, en fait, ouais, dans la vidéo. Ouais. Tu peux faire ça en 5 minutes, littéralement. Qu'est-ce qu'il disait? Si tu pouvais faire ça, c'était une roche.
A brain damage rock, donc une roche avec des lésions cérébrales, serait capable. Ben, effectivement, serait capable, mais d'en tirer un profit. Ça, c'est une autre histoire si on ramène à cette manière-là. Mais je pense aussi qu'un des... Un des problèmes avec ce que Nigel proposait, c'est... Je parle de Nigel comme si c'était mon grand ami. Là, mais j'ai écouté sa vidéo plusieurs fois. Je pense qu'on est proche. Je le follow maintenant sur Instagram. C'est que c'était juste de sauter sur une espèce de manière de dropshipping. Il n'y a pas de passion qui est impliquée. T'sais. Moi, j'ai fait un t-shirt ou deux, une casquette, puis c'est tout. Mais j'ai pas trouvé ma manière de monétiser une passion. C'était vraiment juste... Il y a peut-être une faille là ou un besoin, puis finalement, ben, une fois que la vidéo a été vue 50 000 fois, ben, le besoin est comblé, puis il n'y a plus de place dans ces micro-marchés-là. Mais c'est ça, je pense que de chercher à tout prix un side hustle, c'est peut-être pas la manière de procéder, ou en tout cas, c'est pas une manière de s'épanouir. Là-dedans, on parlait de pas se définir en un emploi, mais si on prend un side hustle qui est juste une manière de remplir les coffres, ça amène peut-être pas le bonheur.
Oui, c'est ça. Puis tu sais... Ça en dit long aussi sur notre rapport à l'argent. Je pense qu'on est un petit peu plus détaché, un petit peu plus impatient. On a envie que ça se passe vite, que ce soit pas trop compliqué. Je dis ça, encore une fois, ça sonne très, très négatif, mais c'est carrément ça que Nigel vendait. Là. Mm-hmm. C'est une passe de cash.
Ouais. Puis il y a un point aussi qui est peut-être aussi derrière, j'y pense en parlant, là, mais il y a un point qu'il faut aussi surveiller, c'est que tous ces jobs-là, sont pas du même niveau en termes d'expertise, et certains peuvent être aussi des jobs qui, à un moment, vont dévaloriser le rôle de l'expertise. Et ça, il faut qu'on l'interroge dans la société, là. Toi, par exemple, ce que tu fais est fondé sur de l'expertise. quand même, à un moment, tout le monde ne va pas lancer un fanzine, un journal, mais t'en as qui sont fondés sur une banalisation de l'expertise ou même une... C'est un peu l'ubérisation qui nous a amené ça. Hein. Mm-hmm. Le fait que l'expertise ne vaut plus rien, là, tu sais. Mm-hmm. Et ça, il faut y faire attention aussi, à un moment, là, de se dire l'expertise a quand même un sens.
Mais c'est vrai, puis c'est vraiment une question que je me suis posée longtemps en faisant, ben encore à ce jour, en faisant mon magazine, c'est qui suis-je pour faire ce magazine? Pourquoi les gens me liraient moi? Je ne suis pas une chroniqueuse connue, j'ai pas de lectorat, fait qu'est-ce qui dit que, c'est moi, mon point de vue est plus pertinent que celui de quelqu'un d'autre? C'est vraiment une grande question à laquelle j'aurais jamais de réponse, je pense.
T'as pas de réponse à ça?
Ouais, mais t'en as construit.
Hein?
Enfin, tu vois, tu peux aussi te dire à un moment, c'est une occasion de construire de l'expertise. Mm-hmm. Elle n'est pas forcément, tu peux considérer l'expertise comme quelque chose de nécessaire avant d'y aller.
Ouais, c'est ça.
Ou une occasion d'apprentissage.
Ben, c'est ça. Je pense que pour un milieu qui peut être un petit peu hermétique ou difficile à pénétrer parfois, ben, les salles de saut peuvent être une façon efficace de te rendre. Mm-hmm. C'est comme un peu la porte en arrière où est-ce que tu as un petit peu le syndrome de l'imposteur, mais tu le fais pareil parce que tu te dis, ben, au moins, je l'aurais fait sur papier. T'sais.
As-tu des genres de mentors pour les questions? Je sais pas, moi, si je me lance là-dedans, mes questions seraient d'ordre financier surtout. T'sais, combien ça peut coûter, les délais? Est-ce que tu as des gens que tu as approchés qui t'ont soutenu dans cette démarche-là de lancer un magazine?
Quand même, j'ai parlé à d'autres rédacteurs en chef, des éditeurs de magazines qui m'ont partagé un petit peu leur réalité, qui m'ont donné des plugs avec des imprimeurs, qui m'ont donné toutes sortes de trucs. Fait que c'est sûr que j'ai eu un bon réseau, mais ça a été une aventure quand même assez solo, genre dans le sens solo avec mon équipe. Là, on a appris sur le tas, puis je pense que c'est ça qui a rendu cette expérience super enrichissante aussi, parce que, je veux dire, la quantité d'affaires que j'ai appris en l'espace d'un an, ça m'aurait pris des années en industrie pour l'apprendre, je pense. Là.
Mais c'est le fun de se dire que toi, c'est une zone d'exploration, d'expérimentation, où il y a quand même des choses qui se déroulent, là. Faut pas mettre tout... C'est sûr que c'est peut-être pas la forme la plus éblouissante, là. Mm-hmm. Gagner du fric rapidement, là, c'est pas le truc qui te fait triper sur Terre, là.
Ah non, c'est ça, c'est pas le
cas. Mais quand même, là, on y voit des formes d'expérimentation qui sont intéressantes, d'apprendre, d'avoir des compétences qui se développent, plein d'affaires, là. Moi, je trouve ça cool, quand même.
Ben oui, puis les réseaux sociaux rendent ça tellement plus facile que jamais. Tu sais, partager du contenu, vendre quelque chose en ligne, ça prend 5 minutes, là, c'est pas compliqué. Ben, c'est
mais
pas
même
compliqué.
Le je sais pas, un môme qui fait un t-shirt dans sa chambre, là. Enfin, c'est faut aussi être tolérant avec les gens. Il y a peut-être des gens qui se disent ben, j'en tire quelque chose pour ma vie. Là. Mm-hmm. Peut-être qu'il faut être aussi à hauteur de personne en train de faire ça. Là.
Que la finalité ne soit pas le revenu affiché sur Etsy à la fin, mais le fait d'avoir entrepris ça, d'avoir passé du temps sur un projet qui est personnel, finalement.
Voilà.
C'est pas. C'est
ça,
c'est
toi aussi.
Depuis tantôt, ce qu'on dit, on a parlé de précarité, tout ça, mais il y a beaucoup d'éléments que je trouve intéressants de ne pas attacher son identité à un employeur ou à un emploi. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça peut être une prison, ça peut être une manière, tu sais, d'attacher, de passer 40 ans ou même nos parents faisaient plus ça que nous, là. Je pense à ma mère qui vient de prendre sa retraite après avoir travaillé dans la même école toute sa carrière depuis sa sortie de l'université. Puis. Je pense pas qu'elle était blasée ou quoi que ce soit. Tout ça, c'était dans un milieu qu'elle appréciait beaucoup, mais c'est plus des modèles qu'on a vraiment. Puis je pense que peut-être que ça mettait les gens un peu en prison de se forcer à rester dans une même place, à la place d'avoir pas le courage, mais l'envie de changer, puis les modèles de changer aussi.
Mais c'est une envie, je pense, aussi qui est créée, dans le sens où on est exposé constamment à la multitude. Tu sais, c'est les réseaux sociaux... C'est on voit constamment des réalités différentes des nôtres, là, fait que c'est difficile de ne pas avoir envie de se lancer. Ben, merci, Julien, Olivier, d'avoir été là aujourd'hui. C'était super.
C'est super intéressant. Merci d'être venu.
Ouais, je trouve ça le fun de pouvoir faire avancer une compréhension des choses par la discussion. Là. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. Merci à toi de l'invitation. Là.
Ben oui, ben merci beaucoup. Puis on vous invite à suivre nos réseaux sociaux, les pages de 495 d'Urbania. On vous invite aussi à vous abonner à nos infolettres parce qu'on sait ce qui se passe avec C18. Donc, si vous voulez avoir accès à nos contenus, abonnez-vous à nos infolettres. Puis merci tout le monde.
C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Play. Hey boy!